9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. La discipline budgétaire imposée aux pays européens, la fameuse règle des 3% notamment, est suspendue depuis 18 mois pour pouvoir lutter contre la crise du Covid. L'Allemagne voudrait la rétablir telle qu'elle, au plus vite, mais la France n'est pas d'accord. L'économiste Anton Brender va nous expliquer pourquoi. Je recevrai ensuite Titu Lecoq pour son livre « Les grandes oubliées ». Pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Et avec Nathalie Henisch, on va s'intéresser à l'emballage de l'Arc de Triomphe, l'œuvre posthume de Christo et de sa femme Jeanne-Claude.
Europe 1.
Anton Brender, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste de Candriam Investors Group, professeur associé à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes l'auteur de Capitalisme et progrès social aux éditions de la Découverte. Et à la Découverte, toujours, va sortir le 14 octobre, Économie de la dette. Alors nous sommes à un tournant. Depuis le début de la pandémie de Covid, les États de l'Union européenne se sont considérablement endettés pour soutenir leur économie. L'Europe les a laissés faire. L'orthodoxie budgétaire a été mise en entre parenthèses. La question qui se pose aujourd'hui, c'est va-t-on rétablir au plus vite les règles telles qu'elles étaient ou les faire évoluer?
Je pense qu'il faudra en tout cas les faire évoluer. Mais qu'il n'y ait pas de malentendu, on a besoin d'une discipline budgétaire. L'euro, c'est une union d'un certain nombre de pays qui ont accepté d'avoir une monnaie unique et une banque centrale unique et donc une politique monétaire unique. Et ça, ça impose forcément des contraintes en matière de politique budgétaire. Donc l'idée est qu'il faut une discipline budgétaire, tout simplement parce qu'on est dans un groupe, on a une solidarité qui s'est créée entre les pays qui sont dans l'euro, eh bien, dans ce groupe, il faut une discipline. Maintenant, est-ce que les règles qu'on a mises en place au moment où on a fait le traité de Maastricht et qui n'ont pas tellement changé depuis, qui ont été aménagées un peu à la marge, est-ce que ces règles sont les bonnes? Ça, c'est la vraie question. Et il y a aujourd'hui une espèce d'unanimité qui se fait pour dire que ces règles ne sont pas les bonnes.
Alors les règles, les principales, le déficit public doit être limité à 3% du PIB et la dette publique doit être contenue en dessous de 60% du PIB et cela sous peine de sanctions. Est-ce que l'on sait d'où viennent ces chiffres? Pourquoi 3%? Pourquoi 60%?
Alors, on a fait des calculs. C'est une très bonne question. On a fait des calculs, mais comme on dit, c'était vraiment des calculs assez improvisés. Si vous avez une certaine croissance qui était à peu près la normale de l'époque et que vous avez un déficit de 3% et que les taux d'intérêt sont à un niveau qui était à peu près celui de l'époque, c'est-à-dire le début des années 90, si tout ça fonctionne normalement, votre dette publique peut rester autour de 60%. Ça, c'était le schéma idéal. Ces chiffres sont sortis, il faut le dire, c'est une série de règles de 3 qui ont conduit à ces chiffres qui sont sortis d'un chapeau. Maintenant, entre-temps, et c'est ce que disent aujourd'hui beaucoup de ceux qui disent « ces règles sont plus les bonnes, ces chiffres sont plus les bons », le monde a changé. Mais en fait, il faut dire très vite que dès le départ, ces règles n'étaient pas les bonnes. Il n'y a aucune raison de contraindre la politique budgétaire à ne jamais dépasser 3%, et pire même, à vouloir ramener toujours la dette publique à 60%. Aujourd'hui, vous avez des pays en Europe qui ont 140% de dette publique rapportée à leur PIB. Leur demander de ramener, que ce soit en 20 ou en 30 ans, cette dette à 60%, ça a quelque chose d'absurde. Donc il faut le dire, ces règles étaient absurdes, étaient infondées quand on les a mis en place. Elles le sont encore plus dans le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a une espèce d'unanimité aujourd'hui pour dire il faut repenser ces règles. D'ailleurs, le président Macron, il y a un an à peu près, l'a dit dans une interview dans un journal, dans un hebdomadaire étranger, The Economist, il a dit très clairement que ces règles devaient être pensées.
Alors le commissaire à l'économie Paolo Gentiloni appelle lui aussi à les revoir en profondeur ces règles. Il juge dangereux tout retour trop rapide à la rigueur budgétaire dans l'Union européenne et appelle à ne pas répéter les erreurs de la crise précédente. La crise précédente, c'est celle des subprimes qui avait dégénéré en une crise de la dette.
Absolument. Et on a eu la démonstration, si vous voulez, du caractère complètement absurde des règles qui avaient été mises en place. On avait ce chiffre de 3% qui était, je le répète, sorti d'un peu nulle part. Et la première crise majeure que l'Europe a eu à affronter a conduit tous les pays, pas seulement en Europe, mais partout, on s'est trouvé avec des déficits qui ont été quelque part autour de 7-10% dans certains cas. Vouloir ramener ces déficits de 7% à 3% en l'espace de 2 ou 3 ans, comme on l'a demandé à ce moment-là aux pays de la zone euro, était purement et simplement suicidaire. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a provoqué en Europe une deuxième récession. Après celle liée à la crise des subprimes, la volonté qu'on a eue en Europe de forcer les pays, de demander aux pays, en particulier à ceux qui avaient des déficits importants, de les ramener rapidement à 3%, a provoqué une deuxième récession. C'est une erreur, nous dit-on aujourd'hui. Madame von der Leyen l'a dit dans un discours qu'elle a fait la semaine dernière, ne renouvelons pas nos erreurs, mais rappelons-nous aussi que ces erreurs ont eu un coût énorme en termes de chômage, en termes de pertes économiques. Ce coût a été énorme pour l'Europe. Donc ne pas renouveler cette erreur, c'est bien la moindre des choses.
Mais on parle toujours de l'orthodoxie budgétaire imposée par Bruxelles. Or, vous l'avez dit, Ursula von der Leyen et la présidente de la Commission est tout à fait d'accord avec Paolo Gentiloni, le commissaire à l'économie, pour dire que ces règles doivent évoluer. Donc on voit bien que ça ne dépend pas d'eux. L'orthodoxie budgétaire imposée par Bruxelles, elle n'est pas imposée par Bruxelles, elle est imposée par qui ?
Alors, soyons honnêtes, l'orthodoxie budgétaire, c'est pas une idée purement européenne. Les États-Unis, pendant très longtemps, ont pratiqué eux aussi ce qu'on appelle souvent l'orthodoxie budgétaire, c'est-à-dire la volonté d'avoir un État qui ne s'endette pas trop, d'avoir une dette publique qui n'augmente pas trop. C'est quelque chose qui était relativement partagé pendant très longtemps, hein, l'idée qu'il faut pas laisser aux générations futures une dette publique trop importante. C'est pas purement bruxellois. Vous entendrez ce propos un petit peu partout, en France, aux États-Unis, dans d'autres pays. Il faut juste rappeler qu'économiquement, c'est une idée qui n'a pas de fondement. Autrement dit, il ne faut pas raisonner simplement en se disant « je lègue une dette aux générations futures ». Il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on leur lègue par ailleurs. Est-ce qu'il vaut mieux léguer une dette et un pays qui fonctionne bien, avec des gens qui sont bien formés, avec des infrastructures qui sont de qualité ? Ou bien est-ce qu'il vaut mieux ne pas laisser de dettes aux générations futures et les laisser se débrouiller avec un système d'enseignement qui fonctionne mal, des ponts qui sont en train de menacer de s'écrouler? Voilà le vrai enjeu. Mais cette idée, si vous voulez, qu'il faut pas laisser de dettes aux générations futures et donc qu'il faut pas non plus avoir des déficits qui conduisent à ces dettes, c'est une idée qui, sur le plan purement économique, n'a pas un fondement aussi solide que l'intuition qu'on peut avoir le laisserait penser.
Anton Brender, on fait une pause. On se retrouve juste après. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Anton Brender pour parler du retour des règles du pacte de stabilité et de croissance. Elles ont été suspendues jusqu'à la fin de l'année et c'est l'Allemagne qui veut les rétablir au plus vite. Pourquoi l'Allemagne tient-elle tant à ces règles-là ?
Alors, l'Allemagne est un pays, il faut quand même le rappeler, hein, qui a été terriblement, terriblement traumatisé par ce qui s'est passé au moment de Weimar, avec l'explosion de la dette publique, son financement par la Banque centrale et tout ce qui a suivi. Ça a été quand même un vrai drame, hein, que l'Allemagne a vécu, et avec elle le monde entier finalement. Et son origine était en partie dans une politique budgétaire totalement irresponsable, en tout cas si on regarde les choses avec les yeux d'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que l'Allemagne veut éviter à tout prix. C'est pour ça qu'elle a souhaité que dans le traité, on interdise à la Banque centrale de financer les déficits budgétaires. Et puis, l'Allemagne a peur de devoir un jour être amenée à payer pour la dette des autres. Et ça, c'est quelque chose que, pour l'instant, les Allemands refusent absolument, et c'est ce qui justifie aussi cette volonté de limiter l'endettement des autres pays de façon à ce que personne ne soit amené à faire faillite et que, comme personne ne fera faillite, on ne soit pas obligé de venir au secours d'un pays qui ferait faillite. Ce qui s'est passé au moment où on a aidé la Grèce a donné un avant-goût, si vous voulez, aux Allemands, des risques qu'ils prenaient en étant dans une union monétaire. Ils pouvaient se trouver amenés à aider financièrement les autres pays, et de ça, pour l'instant, ils ne veulent pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Allemagne est aussi rigoureuse. Ça fait partie de sa culture Il y a une volonté de toujours équilibrer les comptes, de gérer les choses avec une certaine parcimonie, de façon à ne pas s'endetter et du coup à ne pas avoir non plus, ils n'ont pas envie de faire face aux conséquences de la dette des autres pays. C'est pour ça que cette règle, il faudrait qu'elle soit partagée par tout le monde.
Et si on les rétablit donc dès la fin de l'année, et notamment
on a décidé qu'en 2022, on maintiendra la clause de sauvegarde, c'est-à-dire qu'en 2022, ça ne sera pas rétabli. De ça, on est sûr aussi. La question, c'est que se passe-t-il en 2023, sachant qu'on part encore une fois de déficits qui sont encore plus importants que ceux d'il y a une dizaine d'années. Un pays comme la France a un déficit qui est pas loin de 10%. La plupart des pays européens ont des déficits publics importants. Les réduire à une vitesse accélérée, c'est quelque chose de dangereux. Ce qu'il faut, c'est quand même ça la leçon de ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années, c'est les réduire au fur et à mesure où les comportements des autres agents se normalisent. Et ça, c'est le niveau des taux d'intérêt qui nous le dit. C'est la Banque centrale qui gère la conjoncture de façon à dire aux États, eh bien, les autres agents, les ménages, les entreprises recommencent à dépenser normalement. Il est temps que vous réduisiez votre déficit. Et ça se traduit par le fait que la Banque centrale monte les taux d'intérêt de façon à dire aux États en particulier, attention, endettez-vous moins, réduisez votre déficit. C'est elle, si vous voulez, le chef d'orchestre normalement de la réduction des déficits. Ça n'est pas une règle qui est fixée a priori. Et c'est ça toute la difficulté, c'est que nous sommes plusieurs dans la zone euro qui devrions respecter les indications que donne le chef d'orchestre, c'est-à-dire être capable, lorsque les taux vont monter, de réduire, et de l'anticiper un peu bien sûr, être en état de réduire nos déficits au fur et à mesure où les autres agents commenceront à dépenser normalement. C'est précisément ce que nous n'avons pas fait il y a une dizaine d'années, et c'est ça qui a conduit l'Europe à une situation qui a été catastrophique, et dont nous sommes à peine remis.
Quelles seraient les conséquences si on revient aux mêmes règles, hein, 3% de déficit public, 60% de dette publique d'ici 2023? Alors vous l'avez dit, il va falloir passer de 120% à 60 ou de 10% à 3. Mais quelles seraient les conséquences?
Les conséquences, vous savez, c'est exactement comme vous conduisez une voiture, vous êtes sur la route, d'un seul coup vous serrez le frein à main et vous apercevez que ça fait faire des choses extrêmement dangereuses à votre véhicule. On l'a déjà vécu une fois, donc on sait parfaitement ce que ça fait. Sauf à espérer, si vous voulez, que le reste du monde soit dans une conjoncture extraordinaire et tire les économies européennes, le fait de freiner le stimulus budgétaire, puisque on sera obligé pour ça de réduire des dépenses, de lever des impôts, eh bien ça freinerait mécaniquement la conjoncture. Si personne d'autre, nulle part, ne la stimule, que ce soit à l'intérieur de nos économies ou en dehors, c'est-à-dire si personne ne dépense plus à ce moment-là pour compenser, eh bien ça freinera l'activité exactement comme ça s'est passé il y a une dizaine d'années. Mais je pense qu'on aura la sagesse de ne pas le faire, ce que nous a dit Madame von der Leyen, ce que dit Monsieur Gentiloni, c'est clairement qu'au niveau de Bruxelles, on a conscience de ces dangers. On ne veut pas répéter la même erreur. La question, c'est, au-delà de ça, comment est-ce qu'on va aménager la nécessaire discipline qui doit exister en Europe? Les règles qu'on a ne sont pas bonnes. Par quoi va-t-on les remplacer, sachant qu'on a besoin, il ne faut pas se tromper, d'une discipline, parce que tout simplement, on partage la même monnaie. Et ça nous impose un minimum de solidarité.
Merci Antoine Brander d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Économie de la dette, c'est votre prochain livre. Il paraîtra le 14 octobre à la découverte. On se retrouve dans un instant avec Titu Lecoq. On va parler de la façon dont l'histoire a effacé les femmes.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Titu Lecoq.
Bonjour.
Vous publiez Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes à l'iconoclaste, avec une préface de l'historienne Michèle Perrault. Ça commence par votre livre d'histoire de CE1. Vous aviez 8 ans, vous l'ouvrez à la page 12 pour étudier la préhistoire. Et que voyez-vous?
Eh bien, je vois un dessin très moche dans l'esthétique de l'époque, donc avec ces espèces de couleurs un peu orange-marron. Et c'est la préhistoire, et donc il y a un homme qui a le regard vers l'horizon, etc. Voilà, on sent qu'il va se passer plein de choses dans son destin, vers la civilisation. Et derrière lui, dans la grotte, il y a une espèce de chose avec beaucoup de cheveux qui, voilà, est penché sur le sol. Et donc ça, c'est sa compagne qui, clairement, n'a rien à faire là.
Bon, depuis, ça a un peu changé. On sait que les femmes préhistoriques avaient une activité de chasseuse-cueilleuse qui rapportait une bonne partie de la nourriture de nos ancêtres. Il se pourrait même qu'elles aient peint elles aussi les grottes de Lascaux que l'on pensait peintes exclusivement par des hommes.
Je pense qu'on s'est juste jamais posé la question. C'est ça qui est fascinant.
À l'époque, on ne se l'est posé pas.
C'était évident que c'était des hommes qui avaient fait ces peintures rupestres. La question ne venait pas à l'esprit. Et même moi, le jour où j'ai commencé à voir effectivement des historiennes dire « Ah, mais en fait, il y a des traces de pas et de mains de femmes dans les grottes », je fais « Non ».
L'écriture, dites-vous, apparaît vers 3300 avant Jésus-Christ chez les Sumériens, d'abord dans des livres de contes. Le premier texte écrit par un auteur identifié et revendiquant son identité date de 2300 avant Jésus-Christ et c'est une femme qui l'a écrit et personne ne la connaît.
C'est fascinant. Dans toutes ces femmes qu'on a oubliées, il y a quand même, voilà, celle-là, pourtant, ça fait 50 ans que les féministes disent bah, en fait, le premier texte qu'on a écrit avec un auteur qui dit « je », c'est une femme qui l'a écrit. Le premier jeu de l'histoire de l'humanité, c'est une femme qui l'a écrit. C'est une prêtresse qui a été prise dans une espèce de complot politique un peu compliqué. Et donc, visiblement, elle a des choses à se faire pardonner. Elle fait une grande déclaration à la déesse, parce qu'en plus, elle prie une déesse et pas un dieu. Et le texte est très beau. Et ça, voilà, ça imprime pas, c'est pas dans les livres d'histoire.
Elle s'appelle Enéduanna, je n'avais jamais entendu son nom, et ça se passait en Mésopotamie. Les Amazones, de même ces femmes guerrières qui se tranchaient un sein pour pouvoir tirer à l'arc, bon, on sait que c'est une légende grecque, mais il y a eu des guerrières, elles aussi oubliées par les livres d'histoire. On a retrouvé leurs tombes, surtout au nord de la mer Noire d'ailleurs.
Oui, alors on les a retrouvées en fait exactement à l'endroit où les auteurs grecs situaient les Amazones. Donc moi, les Amazones, quand je les ai étudiées à l'école, c'était très clair que ça, elles n'avaient jamais existé, puisque les femmes ne combattaient pas en général. Voilà, c'était réglé. Et en vérité, il y a donc une chercheuse, c'est une Américaine qui a travaillé là-dessus. Et donc quand on a recommencé à trouver des sépultures de guerriers dans cette région-là, donc il y avait des armes, etc. C'était évidemment, c'était dit que c'était des hommes. Et il y a un apport scientifique majeur avec l'ADN. On peut déterminer en faisant les examens, si c'est un homme ou une femme. Et donc, on découvre que quasiment 40% de ces tombes, les sépultures sont des sépultures de femmes combattantes. Parce qu'on s'est demandé, ah, peut-être c'est un truc, genre c'était la femme du chef. Et non, pas du tout, parce qu'elles ont les fractures de combat en face à face à l'épée. Donc, elles ont vraiment combattu, elles ont combattu jusqu'à la mort. Et voilà, et a priori, cette histoire d'Amazone ne sortait pas de nulle part. Il y avait une vérité historique, c'est-à-dire qu'effectivement, les Grecs se sont retrouvés face à des combattantes. C'est pour ça qu'ils ont écrit.
Ce que vous dites, Titu Lecoq, c'est que l'égalité entre les sexes ne date pas de la seconde moitié du XXe siècle. Elle a existé bien avant, dans d'autres civilisations. Et au fond, si on l'a oublié, c'est peut-être qu'on l'a fait exprès. On n'avait pas tellement envie de se souvenir que ça avait été différent autrefois ou ailleurs.
Ah bah, alors nous, dans notre culture gréco-latine, et dans les sources c'est très bien dit, c'est vraiment l'égalité entre femmes et hommes, c'est un truc de barbare, c'est un truc d'arriéré, et la vraie civilisation c'est celle qui est dominée par les hommes et qui reconnaît la domination masculine.
Vous voulez dire que ça, on le disait dans la Grèce antique.
On le disait dans la Grèce antique,
à Rome aussi, deux civilisations que l'on considère comme nos mères et pères. Hein.
Exactement, et donc voilà, c'était un signe, parfois, parce que c'est un peu l'impression que j'ai eue moi à l'école, c'est qu'on me disait que l'histoire allait d'un état d'inégalité un peu sauvage, etc., qu'on tendait vers la civilisation et donc vers une forme d'égalité. Et là, on découvre que pas du tout, que notre civilisation s'est construite sur l'inégalité, que c'était très pensé, très revendiqué. Et après, c'est aussi ce qui se passe au moment de la Révolution française.
Pourquoi ?
Parce qu'à ce moment-là, on a, au Moyen-Âge, on a encore une société qui fonctionne par caste, par classe sociale, quoi. Donc, il vaut mieux être noble que pauvre, évidemment. Mais
donc, il vaut mieux être une femme noble.
Noble qu'un homme pauvre. Enfin, ouais. Et au moment de la Révolution, on se dit, tous les hommes sont libres et égaux, et toutes les femmes vont être égales entre elles. Et donc, les femmes nobles qui avaient du pouvoir, qui par exemple pouvaient voter, c'était le cas des veuves, elles vont perdre leur droit de vote. Et on va dire, regardez, c'est l'égalité, effectivement. Elles n'ont plus aucun droit, ni les unes ni les autres.
On en veut aux femmes, vous pensez, dans un pays comme la France, depuis le début ? sérieusement.
Alors, on, c'est toujours la question du on. Il y a des vrais moments dans notre histoire d'offensive contre les droits des femmes. Et les historiennes ont travaillé dessus. Et par des groupes sociaux qui sont très identifiés. Mais comme on peut avoir de nos jours toujours des masculinistes qui sont contre les droits des femmes, ça s'entend encore.
Il y a eu des époques, par exemple, où les femmes étaient partout. Vous dites, au Moyen-Âge, les femmes étaient partout, dans toutes les professions quasiment.
Oui, et on l'a complètement oublié parce qu'on s'est dit, Moyen-Âge, les femmes sont enfermées dans des tours avec des dragons, hein, bien sûr.
Et puis le Moyen-Âge, c'est barbare.
Bah voilà, et en fait, non, au Moyen-Âge, quand on a commencé à les chercher, on les a trouvées dans les registres notamment de métiers. Et donc, on a découvert qu'elles étaient ménestrelles, jongleresses, orfèvresses, donc le féminin de orfèvre, et qu'elles faisaient tous les métiers.
Autrice, par exemple, est un mot qui avait cours au Moyen-Âge.
Tout à fait.
Parce qu'il y en avait beaucoup.
Ouais.
Et de la même façon, il y a eu des reines franques, des reines régnantes. La plus célèbre étant Brunéo, qui, moi, dans mon livre d'histoire, quand j'étais petit, on la montrait attachée à un cheval sauvage par les cheveux. Il faut dire que c'était beaucoup querellé avec Frédégonde, une autre reine, et que c'était presque le symbole du « faut vraiment pas que les femmes soient reines ».
Oui, ça a été très utilisé dès le 19e siècle. Ça a été utilisé pour justifier que le pouvoir soit aux mains des hommes, en disant « on leur a laissé à l'époque des royaumes francs ». Et effectivement, ça s'est très mal passé. Elles se sont fait la guerre, mais c'est quand même une période de l'histoire de France qui est géniale. C'est-à-dire que pendant 40 ans, Brunéo gouverne la France, qui est divisée en plusieurs territoires. Et un autre territoire est gouverné donc, par Frédégonde, son ennemi. Donc, c'est deux femmes qui dirigent la France et qui se font la guerre.
Oui, enfin, une toute petite partie de la France.
Oui, une petite portion, mais c'est quand même fascinant.
On va faire une pause, Titu Lecoq. On se retrouve juste après. Il y a encore beaucoup de périodes tout à fait surprenantes, hein, où les femmes ont des activités souvent surprenantes.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
On continue de s'intéresser aux grandes oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes? C'est le titre complet du livre de Titu Lecoq qui vient de paraître à l'Iconoclaste. Activité surprenante au Moyen-Âge, par exemple, les réclusoires, dans lesquels s'enfermaient des récluses.
Alors, c'est là où on se dit vraiment notre vision du monde a complètement changé. Donc, effectivement, le reclusoire, c'est vraiment l'écrasante majorité des femmes qui demandent à être emmurées vivantes, concrètement. C'est-à-dire qu'on leur construit une espèce de petite cellule, quoi, une pièce, un studio au milieu de la ville, dont elles ne sortiront plus jamais, dans lequel elles mourront, et elles ne peuvent se nourrir que par une petite fenêtre de l'aumône des gens qui passent. Et elles ont une vraie fonction, en fait, très importante à l'époque, elles prient pour la ville. Elles sont là pour endosser les péchés de tous les habitants de la ville et être punies à leur place.
Vous dites d'ailleurs que elles sont volontaires, hein, et c'est souvent parce qu'elles n'ont pas de mari, pas de père pour les protéger, et qu'en fond, une femme seule à ce moment-là, sans protecteur, elle a quasiment aucune chance de survivre, en tout cas de survivre dignement.
Oui, elle risque et ensuite il y aura en plus les chasses aux sorcières, mais oui, elle risque la pauvreté, les agressions, la honte sociale, et c'était la recluse à donc une vie excessivement dure, mais elle jouit d'un statut symbolique qui est quand même très positif. Et parce qu'il faut savoir, on se dit, ben sinon elles avaient qu'à aller dans un couvent. Pour entrer dans un couvent, il fallait avoir de l'argent, parce qu'on se mariait avec Jésus, donc il fallait apporter une dot. Donc celles qui étaient vraiment trop pauvres pour entrer au couvent se disaient, voilà, c'est ma voie, c'est d'être recluse.
Alors, vous parliez des offensives par moments contre les femmes. Il y en a une à partir du XIIIe siècle. On va commencer à les chasser de la plupart des professions, puisqu'on l'a dit, au Moyen-Âge, elles étaient dans à peu près toutes les professions, sauf quand même les universités, la justice donc. Hein. Et elles vont être renvoyées progressivement dans leur foyer.
C'est ce qu'on a appelé le grand renfermement. Ça va s'étendre. Alors, en plus, la France, il y a vraiment une différence entre le Nord et le Sud. Donc, le Nord étant plus progressiste sur les droits des femmes, va rester plus longtemps dans la mentalité du Moyen-Âge. Mais au fur et à mesure, ça va gagner tout le pays. Elles vont perdre. Alors, on retrouve pareil les textes. Elles vont être exclues de corporations de métiers où elles avaient le droit d'exercer. À un moment, ça va être écrit « Non, maintenant, plus aucune femme n'est autorisée dans cette corporation ». Et en réalité, pendant longtemps, on s'est dit « Donc, elles ont été remises, elles sont revenues dans la maison et voilà ». Et en fait, c'est pas vrai. Quand on cherche vraiment, elles ont continué de travailler, mais juste leur travail a été invisibilisé. Et c'est un peu le statut des femmes d'indépendants et de professions libérales qu'on a connues pendant très longtemps. de la femme qui s'occupe de tout avec son mari, mais c'est lui qui est reconnu socialement comme étant voilà, celui qui travaille.
Et elle n'a d'ailleurs pas de bulletin de paye, donc pas de droits sociaux.
Pas de retraite.
Voilà, elle travaille d'une manière moins visible. Mais vous savez, plus récemment, ça s'est passé de la même manière à Hollywood. Le premier Hollywood, juste avant la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup, beaucoup de femmes qui occupaient toutes les professions, productrices, réalisatrices, scénaristes. Et puis, au fur et à mesure que l'industrie va devenir plus puissante, les hommes vont arriver et au fond, vont leur interdire, les syndicats vont leur interdire d'exercer des métiers. Et elles vont continuer de l'exercer, mais en sous-main, derrière les hommes, au fond.
Oui, dont on les retrouve en costumière, etc., décoratrices. Et c'est intéressant parce que c'est la même chose en informatique. Il y a des femmes au début de l'informatique, et puis progressivement, elles disparaissent. Et en fait, elles disparaissent quand ça devient un secteur avec du pouvoir et quand il y a de l'argent. Quand il y a de l'argent, les femmes disparaissent. Et inversement, quand une profession se féminise, on a remarqué qu'elle avait tendance à s'appauvrir en même temps.
Alors, le 19e siècle, c'est vraiment un siècle où l'on s'acharne à rendre les femmes invisibles, d'après ce que vous racontez, hein, où on les exclut le plus possible.
Oui, c'est un siècle excessivement misogyne qui pense, en plus qui intellectualise sa misogynie, qui en fait des théories. Il y a la théorie des deux sphères qui dit que les femmes sont faites pour la sphère privée et intime et les hommes pour le monde extérieur. Et on est encore très, très héritière de cette pensée-là. Et quand on voit voilà, les mouvements féministes à l'heure actuelle, en fait, elles se battent contre le 19e, quoi, contre ce qui a été fondé à ce moment-là.
Elles ne sont pas recluses chez elles pour autant. Hein. Elles travaillent et là, tout à coup, elles ne travaillent plus seulement pour leur père, leur mari ou leur frère. Elles travaillent aussi à l'usine.
Elles travaillent à l'usine et là, il y a une histoire très compliquée qui est intéressante, hein, qui est une histoire de la gauche et du féminisme, qui est que les syndicats ne s'intéressent pas aux femmes qui travaillent. C'est-à-dire les syndicats et tous les partis de gauche français au 19e siècle se disent il faut que les ouvriers soient assez bien payés pour que leurs femmes n'aient plus à travailler. C'est vers ça qu'ils tendent. Et donc, quand les ouvrières, elles, demandent d'avoir plus d'argent et d'être protégées, ils disent « Non, non, mais on va bien vous protéger, vous allez rentrer à la maison. »
Il y a donc une histoire des femmes qui a été en grande partie effacée, que vous restituez. Vous n'êtes pas la seule, vous faites la porte-parole d'un nombre considérable d'historiennes, et d'historiens d'ailleurs, qui sont en train de nous raconter ces grandes oubliées. C'est le titre de votre livre, Titu Lecoq, qui vient de paraître à l'Iconoclaste. Merci d'être venu par Europe 1.
Merci.
On se retrouve dans un instant avec Nathalie Aniche. On va parler de l'emballage de l'Arc de Triomphe. Bonjour Nathalie Aniche.
Bonjour.
Ma langue a encore fourché, je vous ai appelé Aniche tout à l'heure. Veuillez m'en excuser, c'est Nathalie Aniche. En plus, je vous ai souvent reçu, vous avez beaucoup écrit sur l'art contemporain, vous l'avez en quelque sorte théorisé. Or, il revient un temps débat depuis quelques jours avec l'emballage de l'Arc de Triomphe, œuvre posthume de Christo, disparue l'année dernière, et de Jeanne-Claude, son épouse, décédée en 2009. Vous êtes intéressé très tôt à Christophe, hein ?
Oui, alors...
Christo, pas Christophe, c'est vraiment ma journée.
Oui, c'est Christo. Quand j'ai su au printemps 85 qu'un artiste dont je ne connaissais pas le nom moi-même, parce qu'à l'époque... il n'était pas inconnu des spécialistes, mais je n'étais pas à l'époque spécialiste d'art contemporain. Donc qu'un artiste nommé Christo allait emballer le Pont Neuf, je me suis dit, c'est un sujet en or pour un sociologue. Bon, je ne peux pas rater ça. Et donc à l'époque, je n'étais pas encore au CNRS, donc je me suis débrouillée pour obtenir un tout petit financement pour faire une enquête. Et pendant 3 semaines, disons, je n'ai fait que ça, c'est-à-dire qu'un peu avant le début de l'opération, et puis pendant toutes les 15 jours qu'a duré l'emballage, je me suis promenée sur le Pont Neuf, autour du Pont Neuf, j'ai pris les bus qui traversaient le Pont Neuf, etc. Bon, j'ai écouté, j'ai interrogé, j'ai même fait passer un petit questionnaire aux employés de la Samaritaine, enfin j'ai essayé toutes les méthodes pour essayer de comprendre ce que ça provoquait chez les gens qui étaient là. Voilà.
Et cette enquête est parue l'année dernière, enfin, ça s'intitule « Le Pont Neuf de Christo, ouvrage d'art, œuvre d'art » ou « Comment se faire une opinion ?» C'est édité par Thierry Marchès. C'était l'un des premiers à l'époque, Christo. À l'époque, on ne parlait que de Christo, d'ailleurs. On vient de parler des femmes oubliées, des femmes effacées de l'histoire. Son épouse, Jeanne-Claude, avait été effacée.
Alors, elle n'était pas effacée pour les connaisseurs qui savaient très bien que Jeanne-Claude gérait essentiellement l'entreprise Christo, c'est-à-dire toute l'opération à la fois administrative, financière, organisationnelle, à laquelle est adossée la mise en œuvre des projets de Christo. Alors, ils ont toujours travaillé travailler ensemble. Et c'est seulement vers le milieu des années 90 qu'ils ont décidé de co-signer les œuvres. Or, le Pont Neuf datant de 85, à l'époque, il avait été signé Christo tout seul. Et donc, j'ai gardé Pont Neuf de Christo tout simplement pour ne pas réécrire l'histoire et pour ne pas rétrospectivement modifier quelque chose qui, à l'époque, se présentait comme étant l'œuvre de Christo.
J'étais en train de dire que c'était l'un des premiers à l'époque à sortir du petit monde de l'art contemporain en mettant ses œuvres à l'épreuve du grand public.
Oui, puisque le propre donc de ce genre, qui est vraiment un genre de l'art contemporain, qui est ce qu'on appelle en fait le land art en anglais, puisque ça vient des États-Unis, c'est-à-dire l'art dans l'espace, l'art en situation dans la nature ou en ville. Donc le propre de ce genre, donc, c'est que évidemment, il touche non pas seulement des gens qui ont volontairement fait l'effort d'aller dans un musée ou dans une galerie pour voir des œuvres, mais n'importe quel passant qui se trouve du coup exposé à des objets dont il ne comprend pas forcément la nature. Et c'est ça que je trouvais très intéressant sociologiquement, c'est comment le passant moyen, le citoyen de base qui ne s'intéresse pas forcément à l'art et encore moins à l'art contemporain, peut tout simplement cadrer dans son espace mental, peut réussir à qualifier quelque chose qui est aussi atypique par rapport à son univers et quotidien et esthétique. Et donc, du coup, les interprétations étaient extrêmement variées. Alors, certains pensaient que c'était des travaux pour la Samaritaine, d'autres que c'était un tournage de film, d'autres encore que c'était les Américains qui, pour les touristes, avaient organisé un truc spécial. Enfin, il y avait vraiment des interprétations, y compris d'ailleurs un des ouvriers qui, deux jours avant l'inauguration, était en train de mettre le tissu et à qui je demande, faussement ingénu, mais c'est quoi ce truc-là ? Et il me dit, oh, vous inquiétez pas, les tableaux, c'est dans deux jours. Donc pour lui, il était en train d'installer le tissu sur lequel allaient être accrochés les tableaux de l'artiste Christo. C'est-à-dire que même quelqu'un d'aussi impliqué dans l'opération avait du mal à comprendre qu'on était dans quelque chose qui n'était pas des tableaux encadrés ou des sculptures, mais quelque chose de totalement inédit, qui est donc ce geste d'empaquetage.
À l'époque, il y avait 600 animateurs qui distribuaient des prospectus sur le Pont Neuf pour expliquer aux gens de quoi il s'agissait. Depuis, les gens se sont beaucoup plus familiarisés avec l'art contemporain. L'art contemporain a envahi l'espace public. Si c'était une des premières fois, aujourd'hui, c'est devenu habituel. Est-ce que les réactions sont les mêmes aujourd'hui, à votre avis ?
Alors, moi, je n'ai pas fait d'enquête aujourd'hui. D'abord, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps. Et puis, c'est très compliqué de faire une enquête. On ne peut pas statistiquement mesurer la part des pour, des contre, des sans opinion, etc. Mais j'ai un petit peu lu les commentaires comme ça qui circulent sur les réseaux sociaux, etc. Et en gros, on a un petit peu... Alors, quantitativement, je ne saurais pas dire s'il y a plus de gens indécis, mécontents, mais on a un peu le même type d'éventail de réactions avec des gens enthousiastes, soit pour des raisons esthétiques, soit pour des raisons de prouesse technique ou d'originalité, etc. On a des gens férocement contre, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on pourra revenir. On a beaucoup de gens qui ne savent pas très bien quoi en penser, et en général, cela n'intervient pas, d'où le fait que sociologiquement, c'est très difficile de faire une enquête à partir des gens qui interviennent spontanément, parce qu'on oublie du coup tout le problème que pose ce type de proposition, à savoir qu'est-ce que je dois en penser, quoi. Et dans ces cas-là, les gens se taisent, voilà. Et donc, c'est très compliqué de pouvoir mesurer la part des opinions respectives, mais disons que apparemment, on a quand même à peu près la même gamme, sauf que je pense que la part d'incertitude sur ce dont il s'agit est beaucoup moins grande aujourd'hui, parce que, en effet, le nom de Christo s'est quand même un petit peu diffusé dans l'espace public, et parce que, comme vous l'avez dit, les installations d'art contemporain dans l'espace public sont devenues beaucoup plus fréquentes, notamment en raison des scandales qu'elles ont provoqués. Et du même coup, il y a une sorte de familiarisation avec ce type de proposition qui fait qu'on a beaucoup moins l'effet transgressif et disruptif, comme on dirait en anglais, qu'a pu avoir le Pont Neuf en 85.
Le concept, c'est le même que pour le Pont Neuf, le concept de l'Arc de Triomphe. Il s'agit d'un changement de cadre au fond, c'est du land art comme vous l'avez dit, et puis il s'agit d'une appropriation symbolique aussi. L'Arc de Triomphe qui appartient normalement à la France, aux Parisiens, à l'histoire, tout à coup il devient l'Arc de Triomphe de Christo, il le signe.
Oui, alors c'est évidemment ce qui peut soit séduire des fanatiques de l'artiste, soit énerver des gens qui estimeraient que l'artiste s'approprie un bien public. Alors simplement, ce qui permet de neutraliser un peu ce type de réaction, c'est le caractère éphémère. C'est-à-dire, comme c'est pour 2 semaines, c'est beaucoup plus acceptable. Les installations dans l'espace public qui ont le plus suscité de réactions extrêmement négatives, ce sont des installations pérennes. C'est les colonnes de Buren au Palais Royal, enfin des choses comme ça.
Qui font l'unanimité aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait fait le dernier grand scandale de l'art.
Absolument, et qui suivait immédiatement l'affaire du Pont-Neuf. Donc le fait que ce soit éphémère, à la fois neutralise un petit peu l'effet d'appropriation par l'artiste, et en même temps suscite d'autres réactions négatives du fait que on estime, beaucoup de gens estiment, que dépenser autant d'argent pour quelque chose qui va durer 2 semaines, c'est absolument scandaleux. Voilà, donc on a ces réactions dans tous les sens.
Au fond, la transgression, elle est très importante. Le concept de transgression est très important dans l'art contemporain. Vous l'avez démontré dans plusieurs livres. Il est là dans la question toute simple, est-ce que c'est de l'art ou pas? Au fond,
oui,
c'est là la transgression.
Absolument, hein. Et c'est ce que j'avais compris en faisant cette enquête. C'est comme ça que je me suis intéressée sociologiquement à l'art contemporain. C'est que j'ai compris, grâce à Christo, que le propre de l'art contemporain, c'est de transgresser les attentes, disons, communes, les attentes de sens commun concernant ce que doit être une œuvre d'art. Et là, on est vraiment dans une transgression majeure, puisque ni peinture encadrée, ni sculpture sur socle, on est dans tout à fait autre chose. Et c'est ça qui fait de cette œuvre typiquement, enfin vraiment une œuvre emblématique de l'art contemporain, avec ce déplacement des frontières, à la fois de la frontière entre art et non-art, et de la frontière matérielle entre le pont de pierre, l'ouvrage d'art, et le pont emballé par le tissu, l'œuvre d'art. C'est pour ça que j'ai sous-titré mon livre « Ouvrage d'art, œuvre d'art » ou « Comment se faire une opinion ?» parce que dans ce déplacement de frontières, beaucoup de gens ne savent tout simplement plus ce qu'ils ont sous les yeux et à quoi ils ont affaire.
Vous dites d'ailleurs que c'est une machine à faire parler. C'était vrai du Pont-Neuf, c'est encore vrai aujourd'hui de l'Arc de Triomphe.
À faire parler et à faire photographier, parce que au moment du Pont-Neuf, il y a eu un boom des ventes de pellicules. À l'époque, c'était de l'argentique. Un boom des ventes de pellicules qu'on a vu jusqu'en banlieue. Les gens venaient de très loin pour pouvoir photographier.
Et le plaisir alors, parce qu'il y a du plaisir aussi à contempler aujourd'hui l'art contemporain sous cette forme. Il est de quelle sorte pour vous? Purement esthétique?
Ça dépend des gens. Il y a des gens qui font état d'un plaisir esthétique lié à la couleur, lié aux effets de flottement, ou tout simplement à l'aspect de l'emballage avec les cornes, etc. Mais il y a aussi, je pense, une part de plaisir technologique liée à la prouesse technique. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens en parlent. Il y a aussi peut-être une part de plaisir liée à la prouesse sociale consistant à obtenir des autorisations pour faire cette chose aussi atypique et éventuellement problématique pour certains. Donc cette question de la prouesse me semble faire partie beaucoup du plaisir.
Merci Nathalie Hennig d'être venue en direct sur Europe 1. Le Pont Neuf de Christo, ouvrage d'art, œuvre d'art ou comment se faire une opinion, ça vient de paraître, ou c'est paru l'année dernière, pardon, aux éditions Thierry Marchès.
Europe 1.
C'est arrivé demain, se termine. On se retrouve samedi prochain. Dans quelques minutes, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews des Échos, présenté par Sonia Mabrouk. Qui est votre invitée, Sonia?
Bonjour Frédéric, notre invité pour le grand rendez-vous Europe 1 CNews sera Jordan Bardella. Et pour l'interviewer, je serai entouré de Nicolas Barré et de Mathieu Boccoté.
Merci Sonia, bonne émission.
Europe 1.